À la fin de notre troisième journée du camp, en ce lundi 18 juillet, nous allons continuer notre étude du thème « Connais-toi toi-même » à la lumière du livre de Job, et non pas de la philosophie grecque. Puisqu'on sait que sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, il y avait cette inscription « Connais-toi toi-même ». Et comme nous l'avons fait chaque fois avant de poursuivre notre étude, nous allons relire, et vous le saurez par cœur, j'en suis persuadé, à la fin du camp, ce merveilleux texte de Romains 11, verset 33e. Nous avons tellement besoin de nous imprégner de cette parole. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu? Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Ô Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu nous as fait discerner en toi le Dieu unique, la Trinité tout entière. Nous connaissons ta pensée au cœur, ô Père, de révéler ces choses aux petits-enfants, ces choses insondables, ces choses incompréhensibles pour les sages et les intelligents de ce monde. Il t'a plu, ô Père, de les révéler aux saints, aux petits-enfants. Et nous voulons venir à toi ce soir avec ces cœurs simples, être à tes pieds, à l'école de ton Fils que tu nous as envoyé du ciel, pour nous communiquer tes pensées. Et nous savons que tes pensées, ô Dieu, sont la vérité à l'égard de toutes choses. Connaître ta pensée, c'est connaître la vérité. Et cette vérité, nous la trouvons dans ta parole. Et nous pouvons dire ce soir que ta parole est la vérité, et nous attendons de ta puissance, de la puissance de ton esprit, que cette parole nous sanctifie. Car nous en avons tellement besoin dans ce monde corrompu, dans ce monde d'injustice et de souillure. Merci, ô Dieu, de nous avoir donné ton esprit pour sonder les Écritures. Merci de nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions saisir ces Écritures et de nous donner la force pour vivre selon tes désirs. C'est la grâce que nous te demandons. Nous ne voulons pas étudier pour étudier, mais nous voulons étudier pour vivre, et pour vivre mieux dans ce monde, mieux encore pour te laisser vivre pleinement en nous, Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, Je vous ai demandé pour ce soir de lire les chapitres 4 et 5 de Job qui contiennent le premier discours d'Éliphaz de Téman, l'un des trois amis de Job venu pour le consoler dans son affliction. Hier soir, dans les deux chapitres du prologue que nous avons trouvé en prose, nous avons fait connaissance avec ce patriarche si remarquable qui vivait heureux et estimé aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Après avoir vu rapidement ce qu'il était dans sa vie, ce qu'il avait et aussi ce qu'il faisait, à deux reprises nous avons vu le ciel s'ouvrir et nous avons pu assister à deux rencontres dans laquelle les anges qui sont, selon l'Écriture, des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut, nous avons vu ces anges venir rendre compte à leur Dieu de leurs travaux, de leur occupation auprès des saints. Et nous avons constaté que Satan lui-même avait encore sa place, qu'il avait son entrée dans le ciel. Cet ange déchu dont nous vous avons parlé, et que lui aussi a rendre compte à Dieu de son activité sur la terre. Vous avez bien saisi cela. Mes amis, vous aurez compris que rien ne peut arriver ici-bas, ni dans vos vies personnelles, ni dans vos vies familiales, ni dans votre vie sociale, sans la permission de Dieu. Nous avons essayé de vous montrer la différence qu'il y avait entre ce que Dieu permet et ce que Dieu veut. Mais même lorsqu'il permet à Satan de nous éprouver ou de nous tenter, Dieu n'a que des pensées d'amour à l'égard de toutes ses créatures. Alors définitivement, jugez cela. Ne revenez plus sur cette question. Dieu vous aime. Et ne mettez jamais en doute l'amour que Dieu a pour vous. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et il nous a aimés, non pas parce que nous étions des êtres aimables, mais nous ayant créés dans un acte d'amour, il a poussé son amour à l'extrême limite en nous donnant ce qu'il avait de plus cher à son cœur pour nous restaurer, pour restaurer cette image qui était ternie en nous. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous avions obéi. Il nous a aimés alors que nous étions devenus des fils de la rébellion, des fils de la désobéissance, en quelque sorte. Il nous a aimés lors même que nous avions choisi pour père le diable. Car c'est bien ce que Jésus doit dire à des gens religieux de son temps. Vous avez pour père le diable, tout en ayant une bonne doctrine, la doctrine de Dieu. Quel est notre père à nous ce soir? Qui est celui qui nous inspire? Est-ce le père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous connaissons réellement comme un père? C'est tellement merveilleux de pouvoir dire, quand on nous le demande, « Mais qui est Dieu pour vous ?» C'est une question qui se pose dans le monde. Et quand on a quelques contacts avec les âmes, eh bien, on nous pose cette question, mais au fond, qui est Dieu pour vous? Qu'allez-vous répondre? Dieu, mais c'est mon Père. Je le connais, je l'aime. Je vis vraiment de son amour. Et de quel amour? De ce premier amour. Car oui, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et pour moi, le premier amour, c'est l'amour de Dieu. Et quand ce premier amour, qui est l'amour de Dieu, est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous sommes renouvelés dans l'amour de jour en jour. Et c'est cela qui fait notre force et notre joie. Dieu a constaté l'amour qu'il avait envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors nous sommes aimés. Mais évidemment, nous sommes jalousés. Et c'est là toute l'histoire de l'ennemi de Satan, qui était le chef de la première création. Et qui pour moi, selon les Écritures, semble bien s'être révolté quand Dieu a révélé à ses anges qu'il allait créer un être au bonheur duquel il allait travailler et qu'il prédestinait à être semblable à l'image de son Fils. Donc, s'il y avait un être qui devait devenir semblable au Fils unique de Dieu, c'était un être qui serait supérieur à qui? À Satan lui-même. D'où cette révolte, cette opposition. Le mal n'est pas éternel. Le mal n'était qu'une possibilité. Et ce que nous apprenons, c'est que c'est cet ange de lumière, Lucifer, qui a fait de cette possibilité une réalité en s'opposant à Dieu, le souverain bien. Dans son orgueil, il a voulu supplanter Dieu et s'opposer à Dieu. Mais on ne s'oppose pas à Dieu. Il a été précipité et il a entraîné, hélas, dans sa propre révolte, bien des anges qui sont appelés dans l'Écriture les démons. Et Dieu le laisse pour l'instant subsister. Et il l'emploie encore pour ses conseils et réaliser ses voies. Mais ce que nous avons appris dans cette simple lecture, c'est que Satan, de sa propre bouche, il l'a avoué, n'est pas omniprésent, comme Dieu est omniprésent. Satan a dit à Dieu qu'il courait ça et là sur la terre et qu'il s'y promenait. Il n'est pas partout. Or, il y a aujourd'hui des gens qui voient Satan partout. Mais nous ne voyons pas Satan partout. Satan n'est pas un autre Dieu. Il n'est qu'une créature. Et il court sur la terre, oui, avec vitesse. Et il se promène surtout auprès des chrétiens, comme nous l'avons vu. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Il croit savoir beaucoup de choses, mais il se trompe. Il était sûr que Job allait blasphémer, allait maudire Dieu et mourir. Il s'est trompé, complètement. Donc il n'est pas omniscient. Donc, nous n'avons pas à le craindre. Il ne sait pas tout, et surtout vous n'avez pas à le consulter. Or aujourd'hui, on le consulte de différentes manières. Et l'on croit à toutes ces puissances des ténèbres. Comme si ces puissances des ténèbres pouvaient vous révéler votre avenir. C'est un péché, c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Mais souvenez-vous, Satan n'est pas omniscient. Et il peut, même quand il vous révélerait quelque chose, par l'un ou l'autre de ces êtres qui se sont donnés entièrement à Satan, alors que nous avons tant de peine en tant que chrétiens de nous donner entièrement à Jésus-Christ. Ne suivez pas ces conseils et surtout humiliez-vous de ce péché. Et vous serez libérés. Si vous avez eu un trafic quelconque avec les puissances occultes, confessez ce péché comme étant une abomination. Et le Seigneur, par son sang, vous purifiera et bien des choses seront transformées dans votre vie. Ne touchez pas à ce qui est interdit. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient et il n'est pas omnipotent. Il ne peut pas tout. Vous avez vu ses limites. Dieu l'autorise à éprouver Job jusque-là, mais pas plus loin. Est-ce que nous avons appris dans cette vision du ciel, c'est que Dieu était glorifié sur la terre par cet homme qui s'appelait Job et qu'il pouvait appeler à plusieurs reprises, en tout cas deux fois dans le prologue, son serviteur. Ce n'est pas à n'importe qui que Dieu décerne ce titre, qu'un homme est son serviteur, mais il le dit deux fois. En parlant à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job ?» Et je trouve que c'est merveilleux, car cette ouverture du ciel n'a pas été faite pour nous montrer ce qu'il y a dans le ciel, les choses célestes dont Jésus voudrait tellement nous parler souvent. Mais il nous a ouvert le ciel pour nous montrer comme le ciel était occupé des choses terrestres. Nous devrions être occupés des choses célestes. Mais en tout cas, quand le ciel s'ouvre, ce n'est pas pour que nous puissions nous évader, mais c'est pour que nous soyons conscients que nous sommes observés, que nous sommes suivis, que le monde céleste, le monde angélique est là, qui nous contemple, qui contemple aussi la marche de l'Église et qui contemple chacune de nos vies. Nous sommes suivis, nous sommes accompagnés. L'autre soir, je vous ai parlé de cette nuée de témoins qui nous entoure en parlant de ces morts en Christ, de ces héros de la foi qui, pour Dieu, ne sont pas morts, mais sont vivants, car pour lui tous vivent, et il nous entoure, nous sommes proches de ceux qui nous ont simplement devancés et qui sont en Christ dans le repos, alors que nous sommes en Christ dans le combat, mais nous sommes proches les uns des autres. Eux qui nous ont devancés attendent le moment de la résurrection, et nous attendons le moment où, soudainement, nous serons transformés et nous connaîtrons alors dans des corps de gloire semblables à celui du Christ, cet enlèvement subit et qui jettera une certaine consternation d'abord dans le monde, mais qui permettra alors d'unifier toutes choses. Le sel de la terre étant loin, ces gêneurs ayant disparu, alors l'unité à laquelle tant de gens travaillent pourra se réaliser sans obstacle, mais c'est une unité de catastrophe, c'est une unité pour le jugement. Libré sera lié en botte quand le bon grain aura été ravi dans les greniers célestes. Nous allons au-devant de cet extraordinaire triage qui aura lieu par les anges. Il y aura, selon l'Écriture, une action angélique dans la création. Et nous devons nous y attendre. Je n'attends pas la guerre des étoiles, des Russes ou des Américains. Nous savons que bientôt il y aura cette guerre des étoiles, mais c'est Michel qui combattra contre Satan, les anges de lumière contre les anges de ténèbres. Et alors, il en sera fini avec la présence de Satan dans le ciel. Mais il sera sur la terre, lui le prince de ce monde. Et alors, il mettra le comble à sa fureur. Et il croira une dernière fois triompher du Seigneur. Est-ce que vous avez saisi que le ciel s'est ouvert pour que nous puissions être conscients que nous sommes suivis, que nous sommes gardés, que nous sommes protégés? Mais ce que nous avons vu, c'est que actuellement encore, Satan est vraiment l'accusateur, le discréditeur, l'ennemi qui voudrait faire du tort au témoignage chrétien. Et Dieu, en lui permettant d'éprouver ce Job qui donnait tant de satisfaction au cœur de Dieu, car en vérité il n'y a eu qu'une heure dans l'histoire de l'humanité où Dieu a pu être réjoui par la marche d'un homme, son fils unique, ayant pris un corps formé dans le sein de la Vierge Marie, son fils unique est venu ici-bas nous révéler ce que Dieu attendait de l'homme. Il est allé de lieu en lieu, et il est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a eu une heure dans l'histoire de l'humanité où Dieu a été vu marchant et parlant sur la terre. Et le cœur de Dieu était tellement satisfait que le ciel s'ouvrait. Et l'on entendait la voix du Père qui disait « C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. » Et il nous l'a donné pour que nous aussi nous connaissions le plaisir de Dieu. Est-ce que ça ne nous dit rien à nous ces choses? Où trouvez-vous votre plaisir? Dans le monde? Dans les choses qui sont dans le monde? Alors je sais quels sont vos plaisirs. Plaisir de la chair. Convoitise de la chair. Convoitise des yeux. Orgueil de la vie. Est-ce là votre plaisir? C'est tout ce que le monde offre. Tandis que Dieu nous offre le plaisir qu'il a, lui, l'être bienheureux. Il voudrait que nous soyons des bienheureux et notre vie devrait manifester ce bonheur. Est-ce que nous le possédons? Mais ce bonheur, ce n'est pas quelque chose. Ce bonheur, ce ne sont pas des circonstances heureuses. Ce bonheur, c'est une personne qui remplit nos cœurs et qui prend de plus en plus toute la place, de sorte que, à mesure qu'il grandit en nous, nos angoisses se dissipent, et nous sommes capables d'affronter toutes les souffrances, et de traverser toutes les difficultés en vainqueur. Comme il l'est dit dans le chapitre 8. des Romains. Et ce que nous avons constaté, c'est que le diable a perdu la face sur tous les tableaux. Et Job, s'il est sorti nu de ses épreuves, il est resté victorieux des attaques de Satan. Il n'a rien attribué à Dieu qui soit inconvenant. Alors désormais, depuis le chapitre 3, il n'est plus question directement de Satan, l'ennemi vaincu. Job a accepté, comme nous l'avons vu, sans murmure, la perte de ses biens, de ses serviteurs, en trois catastrophes qui ont déferlé en vagues sur lui, la mort de ses 10 enfants, la maladie terrible qui l'a frappé, la perte de l'appui moral et peut-être matériel qu'il avait en sa femme. Mais après cette 6e épreuve, eh bien, nous avons vu les 3 consolateurs qui sont arrivés et qui vont être pour lui la 7e épreuve. L'épreuve suprême, ces consolateurs qui vont faire déborder la coupe en voulant consoler Job. Et pourtant, quand vous lisez ces textes, nous n'avons pas le droit de douter de la sincérité de ses amis. Ils s'étaient déplacés, ils avaient fait un long voyage, ils avaient quitté leur famille, ils avaient couru certains risques, et puis, quand ils ont vu leur ami Job, eh bien, ils ont manifesté leur douleur. Mais pendant 7 jours et 7 nuits, ils sont restés là, spectateurs muets de la misère de Job. Ils n'ont pas eu une parole pour lui. Et ce silence si long a pesé sur Job et c'est alors que cet homme, qui dans toutes ses épreuves n'avait rien attribué à Dieu, qui fut inconvenant, a éclaté, et c'était le chapitre 3 que nous avons étudié ce matin, a maudit le jour de sa naissance, a exprimé le regret d'être en vie, et enfin a demandé de mourir sans tarder. Cette complainte de Job, nous l'avons terminée ce matin. Alors ce soir, nous allons nous pencher sur le discours d'un de ces sages venus de Téman et qui porte le nom d'Éliphaz, qui veut dire « essai de Dieu ». Mais avant d'examiner ce qu'Éliphaz a à dire à Job, nous voudrions répondre d'abord aux questions qui pourraient encore vous préoccuper au sujet de ce chapitre 3. Nous l'avons fait au sujet du prologue. Ce matin, nous le faisons maintenant, quelques instants, si vous avez des questions que vous avez notées au sujet de ce que nous avons vu dans ce chapitre. Et qu'est-ce que nous avons vu ? Mais nous avons vu un homme pieux, un homme vertueux, vraiment ce que j'appellerais un homme malade d'amour. C'est là la maladie de Job, que vous discernez dans ce chapitre 3. Comme il le dit dans le Cantique des Cantiques, au sujet de la bien-aimée, Job était un bien-aimé de Dieu, et il est arrivé à être malade d'amour. Ivre de justice, sa nature n'en peut plus, et il maudit ses jours. Il se plaint d'être venu au monde, il voudrait mourir. Nous avons vu que, ne comprenant pas, il a cherché la raison de sa souffrance, la raison de cette succession de malheurs, et il a simplement obscurci le dessein de Dieu. Et c'est ce que Dieu lui reproche. Qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins? Et j'ai souligné, et j'y reviens, quand vous ne comprenez pas, n'essayez pas de définir le pourquoi de vos épreuves. Prosternez-vous. Adorez sans comprendre. Faites éperdument confiance à votre Dieu qui ne vous veut pas du mal, mais qui poursuit votre bien, qui est plus ambitieux pour vous que vous ne l'êtes vous-même. Les choses cachées, dit l'Écriture, sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, mais nous savons qu'il connaît les pensées qu'il a à notre égard, que ce sont des pensées de paix et non de mal, pour nous donner un avenir et une espérance, comme le proclame Jérémie. Job a maudit son jour, au lieu de bénir ce jour-là. Et il a oublié, tout à coup, tous les bienfaits que Dieu lui avait donnés au temps de sa prospérité. Et il a posé ces quatre pourquoi qui nous ont arrêtés et qui sont restés sans réponse. Mais alors je vous recommanderais de lire les psaumes 42 et 43 où vous trouvez 9 pourquoi que se pose une âme qui est dans la peine et dans la détresse. Je lis au psaume 42, verset 9, 10, selon les versions. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi marcherais-je en deuil à cause de l'oppression de l'ennemi? Puis plus loin, pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Et la réponse de cette âme, que nous n'avons pas chez Job, attends-toi à Dieu. Tandis que Job voulait mourir, attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est le salut de ma face, il est mon Dieu. Ça manque chez Job, qui était pourtant un homme irréprochable. Puis vous pouvez continuer au verset 5 du psaume 43. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Parce que nous avons terminé le chapitre 3 en voyant que Job était agité. L'agitation, le stress l'avait vraiment saisi. C'est le mot qui lui est dit. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. C'est l'agitation qui survient. Eh bien, au psaume 43, pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu. Car je le célébrerai encore, il est le salut, il est mon Dieu. Alors j'attends vos questions. S'il y en a, sinon, nous continuerons par ce discours du chapitre 4. Tu peux la dire, la noterai, puis je verrai si on répond demain ou ce soir.
Bon, c'est à propos d'Altar qui revient, qui annonce à Job qui dit ah, le feu de Dieu est tombé du ciel.
Oui.
Ils ont tué le petit bétail.
Oui.
Savoir que c'est vraiment le feu de Dieu qui descendait du ciel, puis le serviteur de lui qui prenait ça, le fait que.
Oui, mais parce que Dieu permet certaines choses. Et le diable peut avoir une puissance, même, tu sais que l'Antichrist fera descendre le feu du ciel, il y aura des miracles qui seront tout à fait semblables à ce qu'Élie a pu accomplir, mais ce sera une puissance de séduction, mais Dieu permet comme jugement que ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité soient séduits. L'énergie d'erreur, la puissance d'erreur qui viendra sur ce monde pour que les gens croient aux mensonges, et vous voyez bien qu'aujourd'hui déjà les gens croient aux mensonges.
Que les Écritures annoncent pour la fin des temps, comme une préfiguration.
Ben oui.
La séduction de la vie.
Mais c'est, n'est-ce pas, en le frappant ainsi, eh bien, Satan aurait voulu qu'il pense que c'était Dieu qui voulait le tuer. Que c'était Dieu qui était derrière tout cela pour lui faire du mal. Or, Dieu était derrière tout cela, mais pour lui faire du bien. Parce que nous avons vu qu'il y avait au fond du cœur de Job une racine qui était mauvaise. Il connaissait la justice de Dieu, il connaissait la puissance de Dieu, mais il se savait juste. Il ne se connaissait pas lui-même. Ce qu'il y avait au fond de son cœur. Et alors il fallait qu'il soit d'abord dépouillé pour que le fond de son cœur soit manifesté. Qu'il n'était pas meilleur que les autres. Il offrait des sacrifices pour ses fils, mais il n'en offrait pas pour lui-même, parce qu'il se croyait parfait. Or, justement, cette perfection ne nous justifie pas devant Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu. Peut-être que ce n'est pas satisfait, mais... Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Qui dit une chose, elle arrive si Dieu ne l'a pas commandée. Mais je dis... Dieu n'a pas permis à Satan de faire descendre le feu, son feu, sur ce troupeau parce qu'il n'aimait pas Job, mais parce qu'il voulait le dépouiller. Oui, mais parce que la foudre, on a toujours attribué à Dieu, tu comprends, et surtout dans ce temps-là encore. La foudre était attribuée à Dieu. Alors on peut très bien comprendre que les serviteurs disent que c'est le feu de Dieu. Et en réalité, si tu vas au fond des choses, eh bien, Dieu prend toutes les responsabilités. Et Satan ne peut rien faire sans l'autorisation divine. Alors ça nous rassure. Mais c'est dans cette connaissance-là, dans cette intimité-là, avec notre Dieu que nous devons entrer, pour être réconciliés avec tous les événements qui peuvent se produire dans nos vies. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. On passe au chapitre 4. Qui a pu le lire? J'avais à peu près tout. Bon. Éliphaz de Témon prit la parole et dit, si l'on tente de prononcer une parole, en seras-tu lassé? Mais qui pourrait retenir ses propos? Parce que maintenant, Éliphaz se sent obligé de parler. Pendant 7 jours, il n'a rien dit. Et on se demande vraiment le pourquoi de ce silence. Mais je soulignerai tout de suite qu'il n'y a aucune raison de croire que les amis de Job sont venus vers lui avec des intentions d'hostilité. Au contraire, je l'ai déjà dit, ils ont abandonné leur résidence, leurs occupations, leur famille, ils ont voyagé pour rencontrer leur ami. De sorte que leur silence initial peut être dû au respect qu'ils avaient pour Job, à la compassion aussi, mais à la stupeur de retrouver leur ami qui était autrefois là pour les recevoir, de le trouver sur le sac et la cendre. Et ils ont manifesté leur propre désolation, de sorte que c'était vraiment un ami qu'ils étaient venus, pensant qu'ils pourraient le réconforter. Mais lorsque Job a montré dans son soliloque initial, ce chapitre 3, qu'il ne pouvait pas accepter son destin avec courage et foi, ce courage et cette foi qu'on connaissait à Job dans la prospérité, eh bien, quand ils ont vu cela, les amis ont cru devoir le réprimander. Un ami, quand il voit quelqu'un qui déraille, s'il est vraiment un ami, il pense qu'il doit le réprimander, mais il y a manière et manière de réprimander quelqu'un. Et nous rejoignons ici les Galates. Si ton frère a péché, eh bien, il y a une manière d'aller le trouver et de l'exhorter, mais sans le blesser. Alors, nous avons donc un enseignement au sujet de l'attitude que nous devons avoir quand nous rencontrons quelqu'un qui passe par une grande épreuve. Mais ce qui me frappe, c'est que ces hommes si sages et qui se réclamaient de Dieu n'ont pas eu pendant 7 jours et 7 nuits une seule parole qui aurait pu apporter un baume à Job dans sa peine. Et même si c'est l'amitié, comme nous le voyons au début, qui a conduit Éliphaz à prendre la parole, nous savons que le Seigneur a formellement désapprouvé Éliphaz et ses compagnons pour n'avoir pas su parler de lui comme il convenait. Vous savez, aujourd'hui, on parle du Seigneur à tort et à travers. On emploie le nom du Seigneur en vain. Le nom de Jésus, on le traîne partout. Mais quel est ce Jésus? Dès que vous prononcez ce nom maintenant, eh bien, vous êtes en quelque sorte déjà repoussé. Les gens ne sont pas intéressés. C'est la vie de Jésus qui devrait être manifestée en nous, pour qu'on nous demande quel est le secret de notre vie. Et alors nous pourrions parler de Jésus. Mais assassiner les gens avec Jésus, avec le nom de Jésus, eh bien, c'est les repousser peut-être du grand salut de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir toujours le nom de Jésus sur nos lèvres. et nous exalter quand nous chantons, quand nous chantons, quand nous chantons. Hein? Je l'ai dit une fois dans une église, nous nous exaltons, nous partons comme une fusée, puis tout à coup nous nous désintégrons, puis nous retombons sans parachute. Et c'est la catastrophe. Attention à cette exaltation malsaine, à ces émotions que l'on cultive. Nous vaccinons les âmes contre une réelle rencontre avec Jésus-Christ. Car Jésus est saint. Le nom de Jésus est saint. On croit que il suffit de parler de Jésus, puis peut-être que les gens seront sauvés. Je ne dis pas qu'il faut taire son nom, mais il faut être la manifestation de son nom. Il faut que son nom nous habite. Que son nom ne soit pas seulement sur nos lèvres, mais que son nom, c'est-à-dire sa personne, habite dans nos cœurs. Je ne dirai pas qu'en lisant les paroles d'Éliphaz, nous ne trouvions que des choses qui ne seraient pas bonnes, loin de là. Éliphaz a dit de très belles choses, mais qui n'étaient pas applicables à Job. Et puis, quand on veut prendre la défense de Dieu, on se trompe toujours. Ne vous faites jamais les avocats de Dieu. Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Sachez vous taire quand vous devez vous taire. Sachez parler quand vous devez parler. Donc, si Dieu a dit à Éliphaz, tu n'as pas parlé de moi comme il convenait, nous ne pouvons pas dire que les paroles d'Éliphaz soient des paroles inspirées. Mais ce que nous constatons, c'est que l'auteur du livre de Job a été, lui, inspiré pour nous transmettre les paroles de ses amis. Et cela, précisément, pour nous montrer ce que nous ne devons pas faire ou ce que nous devons faire. Alors, nous continuons simplement notre lecture. Il semble donc d'abord qu'il a du tact. Si l'on tente de prononcer une parole, en seras-tu lassé? Mais qui pourrait retenir ses propos? Voici, et alors, vous voyez, voici que tu as donné des leçons à beaucoup. Il lui parle de son passé, alors que Job était prospère, que tout allait bien pour lui, qu'il était sans souci. Il donnait des leçons à beaucoup. Alors on lui rappelle, mais tu as enseigné les âmes, tu as fortifié les mains languissantes, tes propos ont relevé celui qui trébuchait, tu as affermi les genoux qui ployaient. Et maintenant, alors voilà, c'est toujours « et maintenant ». On est en train de lui montrer le changement qui s'est opéré en lui. Et vous savez, ce n'est pas consolant du tout. Ce n'est pas consolant du tout. On veut exhorter, mais on lui met encore la tête sous l'eau. Quand ça allait bien, tu savais consoler, tu savais aider. Des gens se fiaient à toi, tu les conseillais. Mais maintenant, eh bien, il lui montre qu'il a changé, qu'il n'est plus le même. Maintenant qu'il s'agit de toi, ça c'est la première pointe, maintenant qu'il s'agit de toi, quand c'était pour dire aux autres ce qu'ils devaient faire, tu étais fort. Mais maintenant que toi, tu es éprouvé, alors tu te lasses. Maintenant que cela te touche, tu te troubles. Comprenez-vous que ce n'est pas par des paroles de ce genre que vous allez aider une âme en lui soulignant ce qu'elle était avant et ce qu'elle est devenue maintenant dans sa détresse. Ta crainte de Dieu n'était-elle pas ton soutien ou n'est-elle pas ton soutien? Voilà qu'on va insinuer certaines. Tu avais la crainte de Dieu. Alors, pourquoi maintenant est-ce qu'elle n'est pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de tes voies. Mais ce n'est pas l'été. Job se savait tellement intègre, c'était justement son drame. Lui se savait intègre, lui se savait juste selon les hommes, il n'avait pas commis d'injustice. Et puis, on commençait par vouloir lui donner une explication de sa souffrance. Souviens-toi donc, quel est l'innocent qui a péri. Alors voilà, on commence à dire des bêtises. Comme si on a oublié qui? Qu'est-ce que vous répondriez? Abel, par exemple. Et puis, et où les hommes droits ont-ils disparu? Qu'est-ce que vous trouveriez? Non, mais disparus parce que Dieu les a jugés, ou parce que les hommes ont été injustes avec lui. Et non, qu'il a été pris, il a disparu, bien sûr, mais auprès du Seigneur, mais pas par une épreuve. Il a été enlevé devant le déluge. Où les hommes droits ont-ils disparu? Souvenez-vous de Naboth, tué par la méchante reine qui s'appelait Jézabel. Et puis voilà, alors, c'est toujours ça, comme je l'ai vu. Hein. C'est son expérience, il parle de son expérience, ce qu'il a vu. Mais vous savez, vous n'avez pas vu grand-chose. Et il faut faire très attention de juger d'après notre expérience. On croit qu'on a tout vu, alors qu'on a vu si peu. Comme je l'ai vu, ceux qui labourent l'injustice, et qui sème ce qui est pénible en moissonne les fruits. C'est vrai qu'il y a une moisson de nos semailles. Il y a des choses qui sont justes là-dedans. C'est vrai, mais ça ne s'appliquait pas à Job. Il n'avait pas semé à l'injustice. Mais parler comme parle, c'est ignorer que l'on peut vraiment souffrir pour la justice, que nous pouvons être persécutés à cause de la justice, parce que justement, nous avons un témoignage. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère, et on peut penser que maintenant, quand il parle du lion, au fond, la plainte de Job leur apparaît. Job, c'était comme un lion, un homme remarquable, un homme fort. Il avait en quelque sorte la force du lion, mais voilà, le rugissement du lion, le cri du fauve, c'est un peu le résumé de ce chapitre 3 que nous avons vu, de cette complainte. Les dents des lionceaux se brisent, le lion périt faute de proie. Oui, quand il n'y a plus de gibier pour nourrir le lion, eh bien le lion périt. Eh bien, toi, Job, avec toute la force que tu avais, maintenant, tu es sans force. Et les petits de la lionne se dispersent. Ce sont des allusions que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez méditer. Puis alors, il veut se donner encore plus de poids. Alors, il en vient à des visions qu'il aurait eues. Et c'est toujours cela. La parole ne suffit pas, il faut qu'on ait des expériences tout à fait extraordinaires. Et il raconte une vision qu'il aurait eue. Pour se donner du poids, une révélation, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, qui lui donnerait au fond la révélation du pourquoi de la souffrance. Mon oreille en aperçut les sons légers, ça fait penser à cette voix douce et subtile qu'a entendue Élie le prophète. Au moment où les pensées inquiètes proviennent des visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, la peur et le frémissement m'ont atteint, tous mes os ont tremblé, un souffle passait sur ma face, les poils de mon corps se hérissèrent, quelqu'un se tenait là. Je ne reconnaissais pas son aspect. Une silhouette était devant mes yeux. et j'entendis une voix qui murmurait doucement, « Un mortel serait-il juste devant Dieu ?» Il veut avancer pour montrer à Job, au fond, qu'il est peut-être coupable. Job, bien sûr, il se croit juste, mais Eliphaz pense qu'il va arriver à le convaincre. Un mortel serait-il juste devant Dieu ? Il ne dit pas, c'est lui qui a dit ça, mais il a entendu un messager, en quelque sorte divin, lui dire ça, un mortel serait-il juste devant Dieu ? Les questions que se posent les spitraux romains. Un homme serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Il prépare une certaine argumentation en vue de montrer à Job que s'il est dans une telle épreuve, s'il y a une telle succession de mots qui lui sont arrivés, eh bien c'est certainement qu'il y a en lui quelque chose qui n'est pas en ordre. Eh bien ce n'est pas cela que nous avons à faire. Si Dieu, et vous voyez, il continue pour affirmer des choses qui paraissent très fortes, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, qui sont ses serviteurs ? Là, les anges, hein ? S'il découvre des erreurs chez ses anges, vous voyez, si vous n'avez pas compris le premier verset, vous allez plus loin puis vous le comprenez. Combien plus chez ceux qui demeurent dans des maisons d'argile ? C'est nos corps de chair, nous avons été tirés de la poussière, eux dont les fondements sont dans la poussière, et qu'on écrase comme une teigne, c'est-à-dire comme une mythe, hein. Du matin au soir ils sont frappés, ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde, le fil de leur vie est coupé, ils meurent, mais non avec sagesse. Oui, il n'y a pas d'espérance pour nous de demeurer toujours ici-bas. Ce sont des vérités incontestables que Eliphaz lui dit, mais il n'est pas en état d'entendre cela. Alors, vous voyez, il va maintenant plus loin. Il y a un deuxième maintenant. Crie maintenant. Crie. Y a-t-il quelqu'un qui te répondra ? Ou quel dessein t'adresseras-tu ? Comme si Job pouvait s'adresser à des saints, alors que Dieu lui-même rendait un tel témoignage. Mais évidemment, Eliphaz n'avait pas eu la révélation du livre de Job, il ne savait pas ce qui s'était passé dans le ciel. Mais nous n'avons pas le droit de juger, et c'est là la grande leçon, hein. Vous n'avez pas le droit de juger quelqu'un qui se trouve dans une épreuve. Vous avez le droit de sympathiser, mais encore que votre sympathie ne soit pas lourde et que votre main ne blesse pas davantage. En voulant poncer vous-même une blessure, vous risquez de la faire saigner. Laissez le Seigneur agir. Et puis, n'attribuez pas à d'autres ce qui ne convient pas. Auquel des saints t'adresseras ? Job, nous allons le voir, ne s'adressait pas à des saints, il s'attendait quand même à Dieu. Car l'irritation tue celui qui est stupide, c'est-à-dire sans intelligence, et la jalousie fait mourir l'imbécile. C'est vrai cela, que la jalousie vous détruit. On dit que les gens jaloux ont le teint jaune. Parce que, je m'excuse de dire ça. Non, parce que la jalousie se traite des toxines. Alors, cela fait du mal, ça c'est vrai. Alors ne soyons pas des imbéciles pour être jaloux. Réjouissons-nous de ce que les autres ont. Ça devrait nous faire du bien d'avoir de bonnes nouvelles des autres. Et même qu'ils aient quelque chose que nous n'avons pas. Et voilà son « j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu hein? ».« J'ai vu », vous voyez ce qu'il ne faut jamais faire. Se mettre en avant. « J'ai vu, ah, j'ai l'expérience ». Au fond, c'est là, là, la théorie. « J'ai l'expérience, je peux te le dire, hein? Je peux te confier en mes paroles. « J'ai vu le stupide prendre racine et soudain, j'ai eu sa demeure en exécration. » Ses fils s'éloigne de la voie du salut. Alors voilà, qu'est-ce qu'il avait perdu, Job ? Ses fils. Et quand vous êtes dans une grande épreuve et que vous êtes fixé sur votre épreuve, vous pensez à qui quand on vous parle de fils? À ses propres fils. Comprenez-vous? Alors, nous gaffons terriblement, nous blessons. Ses fils s'éloignent de la voie du salut. Il en a eu assez peur de cela, puisque lors de leur festin, il avait toujours peur qu'ils maudissent Dieu dans leurs pensées. Et alors, il sacrifiait pour chacun d'eux un holocauste. Il offre un holocauste au Seigneur. Ses fils s'éloignent de la voie du salut. Ils sont condamnés au tribunal et personne ne les délivre. Et oui, c'est comme si, là, Eliphaz déjà lui fait comprendre que ses fils ont du péché, ont été condamnés au tribunal céleste, et puis personne ne les a délivrés. Des affamés dévoreront sa moisson. Il a été éprouvé dans tous ses biens, il a tout perdu. Ils viendront l'enlever jusque dans les épines. Ils lui parlent au fond des fléaux qui se sont abattus sur lui, mais en lui montrant que tous ces fléaux ont certainement eu leur raison d'être dans des fautes qu'il ne souligne pas encore. Mais vous verrez que comment, après avoir parlé une fois, il parlera une seconde fois et une troisième fois, puisqu'il y a trois cycles de discours. Des hommes assoiffés engloutiront sa fortune, mais c'est bien ce qui est arrivé à Job, il n'a plus rien. Le malheur ne sort pas de la poussière, alors c'est ça, hein. On insinue le malheur, si tu es comme ça dans le malheur, ça ne sort pas de la poussière, c'est des paroles très fortes, comprenez-vous? Pour Job, qui est un écorché vif, faites attention, c'est un écorché vif qui est devant vous. Puis on lui dit, l'homme est né pour la peine, ça vous encourage. Hein? Comme les étincelles s'envolent pour voler, s'élèvent pour voler. Comme j'ai consolé mon ami Job. Puis alors, voilà, pour moi, le moi-je, l'exemple, pour moi, alors c'est un bon conseil, hein. Je rechercherai Dieu. Job, tu t'es éloigné. Pour moi, je rechercherai Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Mais qu'est-ce qu'il avait dit, Job? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et quand il est tombé malade, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Nous avons reçu les biens de la main de Dieu, ne recevrions-nous pas aussi les maux? Et maintenant, on vient lui dire que c'est à Dieu qu'il devrait exposer sa cause. Mais il l'a certainement fait. Et puis, on lui dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Mais ça, c'est vrai. Là, ce qu'Eliphaz dit, vous pouvez le retenir, ce sont des vérités. Mais il pouvait les faire, et il les a faites pour Job. Il a fait des merveilles sans nombre. Il lui a donné le double. Il répand la pluie à la surface de la terre, il envoie l'eau à la surface des champs. Mais tout ça, Job le savait. Hein, que Dieu envoie l'eau à la surface des champs. Il a fallu qu'Eliphaz vienne lui dire ça. Il sait bien que sans eau, tout est desséché. Il relève ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont dans la tristesse parviennent au salut. C'est très beau. Il anéantit les projets des hommes rusés, ça on le sait aussi, et leurs mains ne peuvent leur assurer le succès. On pourrait trouver des exemples, mais nous passons. Il prend les sages dans leur propre rue, et le conseil des hommes astucieux ne fait pas long feu. Eux qui rencontrent les ténèbres en plein jour et tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. Il y a des gens, en effet, qui ne trouvent pas leur chemin, qui ne savent jamais voir la lumière. Mais lui, il sauve le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche et de la main du puissant. Alors, pour le faible, il y a de l'espérance, mais l'injustice ferme la bouche. Ainsi donc, heureux l'homme que Dieu reprend. Car là, nous sommes en pleine épître aux Hébreux, chapitre 12. Ne refuse pas la correction du Tout-Puissant. Mais il ne l'a pas refusé, puisqu'il a accepté. Mais c'est quand ça se prolonge que ça devient difficile. Car c'est lui qui fait la blessure et qui la pense, c'est vrai aussi. Il écrase et ses mains guérissent. Six fois, il te délivrera de la détresse. Et vous pourriez chercher quelles sont ces six détresses desquelles on peut être délivré. Je ne le dis pas ce soir. Sept fois, le mal ne t'atteindra pas. Il y a une plénitude de délivrance. Il te libérera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Vous pourriez trouver une foule d'exemples dans la parole qui montrent ça. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, de toutes ces médisances. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la disette. Ne crains pas les animaux de la terre. C'est les fléaux de Dieu, hein, des fléaux de Dieu, les animaux de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les animaux des champs seront en paix avec toi. Tu reconnaîtras que la paix sera sous ta tente. Tu visiteras ton pâturage, et il ne te manquera rien. Vous allez dire à un homme à qui il manque tout maintenant, ben voilà, tu ne manqueras de rien, mets ta confiance. Qu'est-ce que c'est cela? Il y a un verset qui m'est venu à cœur dans Job, chapitre 25. Vous le connaissez? Il est en train de chanter une chanson à un cœur affligé. On ne sait pas. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. On ne chante pas une chanson à un cœur affligé. Même si les paroles de la chanson sont justes, expriment une vérité, il y a un temps où il n'est pas convenable de chanter. Vous connaissez ce verset? Verset 20 du chapitre 25 des Proverbes, nous l'avons étudié il y a 3 ans. C'est retirer son vêtement par un jour de froid. Ça fait du bien, hein? Vous enlevez un vêtement à quelqu'un qui souffre déjà du froid. À ce moment-là, voilà votre consolation. Vous lui enlevez encore son vêtement. C'est retirer son vêtement en un jour de froid, c'est répandre du vinaigre sur du nitre que de chanter des chansons à un cœur attristé. Et il y a beaucoup de chrétiens qui en sont là. Ils chantent des chansons à un cœur attristé. Eh bien, c'est cela, là. Ce sont de très belles paroles, mais qui ne conviennent pas pour Job. Tu reconnaîtras que la paix sera sous ta tente, tu visiteras ton pâturage, et tu ne manqueras de rien, et rien n'y manquera. Tu reconnaîtras que ta descendance sera nombreuse. Il parlait de sa descendance quand il vient de perdre ses fils. Il est tout à fait à côté du sujet. Et que tes rejetons seront comme l'herbe de la terre. Tu entreras dans la tombe en pleine vieillesse, comme on enlève un tas de gerbes en son temps. Voilà ce que nous avons découvert, comme si c'était une découverte. C'est ainsi. Il est sûr que tout ce qu'il a dit est vrai. À toi d'entendre et de le reconnaître. Je crois que le Saint-Esprit va vous conduire à reprendre ce discours qui a commencé avec tact, et puis petit à petit, la nature a pris le dessus, et puis Eliphaz s'est dit, il faut que j'aille jusqu'au bout, que j'ai le courage de lui dire la vérité. Et on croit qu'on a dit la vérité quand on a à moitié assommé une âme dans la peine. Eh bien, que Dieu nous garde de cela. Pour demain matin, puisque nous avons proposé les 21 chapitres pour cette semaine, je vous demanderai de lire la réponse de Job, chapitres 6 et 7, qui est composé de 51 versets. La réponse de Job à ce discours d'Eliphaz, et j'espère que vous avez noté des questions qui pourraient encore se poser à vous. J'ai dit que nous n'allions pas plus loin que ce que la parole de Dieu nous dit. C'est petit à petit que nous découvrirons la vraie raison de la souffrance de Job. Nous avons déjà quelques indices, mais ses amis, Eliphaz, se trompaient comme ils pensaient attribuer ses souffrances à une punition de Dieu pour un péché de Job. Et Job savait que ce n'était pas cela. Alors, il se sentait accusé. Dieu notre Père, nous nous courbons une fois encore devant toi et nous te demandons de nous familiariser par ton esprit avec ta parole. Que nous ne soyons pas simplement des gens qui ont les dogmes de leur Église ou les traditions religieuses, mais que nous ayons cette sensibilité qu'avait le Christ quand il s'approchait des âmes, comme il s'est approché de la Samaritaine, sans la juger, acceptant de boire à sa cruche où buvait son amant. Ô Seigneur Jésus, donne-nous de comprendre que ce n'est pas le contact avec les âmes qui nous souille, mais de garder du péché dans notre cœur. Et apprends-nous à confesser nos péchés, afin que nous soyons libérés. Et façonne-nous par nos épreuves pour que nous soyons capables, ayant été consolés par toi, de pouvoir consoler les autres par la consolation que tu nous auras donnée toi-même. Et garde-nous de devenir des consolateurs fâcheux et de débiter des condoléances qui ne font qu'aggraver le mal. C'est la grâce que nous te demandons, afin que le monde reconnaisse que nous avons été avec Jésus. Amen.